Salut, vous êtes bien sur Détournement féministe et pour ce mois de mars, on avait envie de rediffuser une émission de Langue de Fronde, une émission féministe à Paris sur Fréquence Paris Pluriel. Une émission qui s'y aborde la thématique trans à travers la présentation d'un livre qui s'appelle Matérialisme trans qui est sorti en août 2021. Et du coup, dans cette émission, la personne qui a coordonné le bouquin explique un peu de quoi parle le bouquin et revient sur les thématiques trans à travers un prisme matérialiste. Et on a trouvé que c'était une émission hyper, hyper bien faite, hyper claire. Et du coup, ça nous paraissait intéressant de la rediffuser. Voilà, et bonne écoute et au mois prochain.
Langue de Fronde.
Une émission féministe sur Fréquence Paris Pluriel
106.3 FM.
Et en fait, ce qui nous a réunis, c'est ce désir commun de faire avec d'autres, en fait. Trouver d'autres femmes qui ont ce même désir.
Langue de Fronde.
Une émission féministe sur 106.3 FM, Fréquence Paris Pluriel.
Tous les deuxièmes lundis du mois de 18h à 19h et en rediffusion tous les troisièmes jeudis du mois de 7h à 8h.
Oh, vous savez, François, j'aurais une petite confidence à leur faire.
On est bien sur Langue de Fronde.
Bonjour à toutes, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, dans l'émission féministe Langue de Fronde. C'est Fabia qui vous parle. Eh bien, ce mois-ci, j'ai voulu commencer une émission autour des pensées qui abordent les questions et les vécus des personnes trans dans une perspective féministe matérialiste ou sociologique. Donc, a priori, il y aura deux émissions. Ce mois-ci, en décembre, on va commencer par une interview autour du petit livre sorti en septembre qui s'appelle « Matérialisme trans », qui a été co-dirigé par Noémie Grunenwald et Pauline Kolochek, qu'on a eu le plaisir d'interviewer. On n'aura pas le temps d'aborder tous les articles qui sont denses, très riches et plus ou moins faciles à lire pour des personnes qui ne sont pas universitaires, mais on voulait déjà essayer d'introduire cette réflexion féministe matérialiste sur les vécus et questions trans. Donc pendant l'émission, vous écouterez des musiques chantées par des personnes trans. Ces personnes, vous les avez déjà entendues dans l'émission musicale transféministe d'avril 2020. La première sera Quiet Dash avec Decline Him. La seconde sera She Diamond avec Prisons of a Legend. Et enfin, la dernière sera, si on a le temps de la mettre, Tame E.T. avec It's Not Your Right to Know. On finira l'émission par la chronique habituelle J'ai des corps à vous dire. Je vous souhaite une bonne écoute. On vous dit à bientôt. Portez-vous bien. Ce mois-ci, à Langue de Fronde, on a encore bougé. On est avec Pauline Kolochek et on va parler du livre Matérialisme trans, qui nous intéresse bien ici à Langue de Fronde. Et avant de commencer à parler du bouquin, est-ce que tu veux bien te présenter, Pauline ?
Déjà, merci beaucoup d'avoir organisé cette interview. Je suis maîtresse de conférences en philosophie à l'université d'Amiens. Je travaille en philosophie allemande, notamment sur Marx, et aussi en études féministes, domaine dans lequel ça fait déjà depuis plusieurs années que je travaille sur le sujet de la transitude. Et par ailleurs, je suis une militante lesbienne autonome en région parisienne.
Ok, merci. Alors, pour commencer à parler du bouquin, je vois sur la quatrième de couverture, il est annoncé directement que l'ouvrage refuse la réduction des réalités trans à des questions d'identité. Alors, moi, je trouve ça intéressant parce que actuellement, quand on parle en gros des trans, c'est tout de suite la notion de transidentité qui est utilisée. Est-ce que tu peux, du coup, nous dire pourquoi tu critiques cette approche, enfin, vous critiquez cette approche, et pourquoi vous proposez aussi, du coup, le terme de transitude pour remplacer celui de transidentité ?
Il y a une raison d'abord assez pragmatique à cela. Le terme de transitude, il vient du Québec. Hein. Ce sont d'abord les francophones québécoises et québécois qui l'employaient et qui est l'équivalent francophone de transness en anglais. Et l'avantage que nous avons trouvé à ce terme, quand nous l'avons découvert, c'est qu'il est tout à fait neutre en termes interprétatifs sur quelle est la réalité trans. C'est-à-dire, c'est juste le suffixe « itude » ou « ness » en anglais ajouté à l'adjectif « trans ». et nous cherchons un terme qui soit le plus vaste et le plus neutre possible, qui ne contienne pas déjà implicitement une thèse sur la nature de ce que c'est qu'être trans et de ce que ce sont des vies trans, des expériences trans, afin de pouvoir élaborer théoriquement à partir de ce terme, sans préjuger certaines interprétations de ce que c'est qu'être trans. Or, ce type d'interprétation plus ou moins implicite est contenu dans d'autres concepts pour désigner la transitude, par exemple le concept de transidentité, mais aussi le concept de transgenre, ou enfin le concept de transsexualité, ou le concept plus ancien de transvestisme. On ne peut pas les prendre, ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter ces concepts pour point de départ d'une étude. Ça, c'est le premier point. Le second point, non plus en termes de point de départ des études sur les réalités vécues par les personnes trans, mais en termes cette fois de conceptualisation de ces réalités. Une fois qu'on en vient justement aux thèses, aux interprétations sur ce que c'est que cette transitude. Là aussi, le concept de transidentité que tu évoquais, qui est devenu depuis une bonne dizaine d'années maintenant l'un des concepts les plus utilisés dans les milieux militants, TPG et féministes au sujet des trans, nous semblait être discutable, pour la simple raison que la conceptualisation qu'il donne des réalités trans est une conceptualisation individuelle et psychologisante. La transitude est pensée comme une identité, identité trans, identité qui serait marquée par le passage d'une catégorie de sexe à une autre. Or, un tel passage, avant d'être un phénomène identitaire, c'est avant tout un phénomène social. Parce que passer d'une catégorie à une autre, ça n'est pas que passer d'une case conceptuelle à une autre, c'est passer d'un groupe social à une autre. Les femmes, les hommes ne sont pas traités de la même manière. C'est pour ça que le changement de sexe, c'est ce que Emmanuel Bobatti appelle dans son récent ouvrage tiré de sa thèse un transfuge de sexe, un transfuge social, qui peut se faire en un sens ascendant, en un sens descendant, dans tous les cas qui bouleverse l'existence sociale de l'individu, qu'on le fasse homme vers femme vers homme, ou femme ou homme vers une tentative non-binaire pour ne pas s'intégrer à l'un ou l'autre de ces groupes et catégories sociales. Donc c'est vraiment cet aspect avant tout de structuration de l'existence sociale des individus trans par leur transition, puis une fois que cette transition est achevée par le fait qu'ils, elles ou elles ont changé de sexe, que nous cherchons à mettre en avant, à étudier dans ce livre, et cela impliquait d'abandonner l'approche en termes de transidentité. Ce qui ne veut pas dire que cette approche n'a pas été utile un temps. J'en avais parlé avec Karine Espinera et Modius Thomas, qui ont été en France les principales introductrices de ce concept, qui était d'abord un concept allemand, et qui me disaient, bon, mais en fait, dans les années, au début des années 2000, on avait besoin d'un mot facilement appropriable, facilement diffusable, pour contrer l'hégémonie des vocables médicaux, notamment de transsexualisme, hein, qui était encore dominant dans le cas d'une sophecte encore assez peu transformée à cette époque-là, si tant est qu'elle se soit si profondément transformée aujourd'hui. Et je suis tout à fait consciente et d'accord avec cette thèse selon laquelle il y a pu avoir à un moment un besoin de trouver dans ce terme de transidentité quelque chose qui s'oppose, un terme qui opère une réappropriation de soi des individus trans face aux discours et aux pratiques médicales de gatekeeping, d'empêchement ou de ralentissement des transitions. Mais il n'en demeure pas moins que cette période est derrière nous, qu'aujourd'hui la conceptualisation psychologisante de la transitude comme transidentité est devenue tellement hégémonique qu'elle est reprise par le corps médical, ce qui est logique car en réalité la conception transsexualiste de la transitude est aussi une conception psychologisante, et que pour penser la transitude non pas comme quelque chose qui ne serait qu'un état intérieur, mais comme quelque chose qui est effectif, qui structure les vies des personnes trans, nous avions besoin d'autres concepts et de sortir de cette approche identitaire.
Ok, merci beaucoup. Et du coup, est-ce que ça te va de donner une... d'expliquer, au fait, de donner une définition de la transitude ou de qu'est-ce que c'est que transitionner, enfin voilà, une explication sociale aux personnes pour les sortir de cette idée de « je me sens en fait à l'intérieur de ma propre tête comme d'un mauvais genre ou quoi que ce soit ». Comment tu t'expliquerais ça à n'importe qui de qu'est-ce que c'est que la transitude, qu'est-ce que c'est que les trans comme ça, qu'est-ce que c'est que ce processus?
Je pense qu'effectivement, on a besoin d'une définition alternative aux définitions les plus courantes et les plus répandues, notamment chez les personnes cis. La définition la plus courante étant celle qui oppose un sentiment de soi, je me sens homme ou femme, ou ni l'un ni l'autre, ou les deux, etc. Donc un simple sentiment de soi a une réalité anatomique. Alors le problème, si on oppose de cette manière sentiment de soi et anatomie, c'est qu'une bonne partie des gens qui ont transitionné alors ne sont pas trans. L'anatomie d'une personne trans ayant achevé sa transition correspond au sexe qu'elle revendique. Une femme trans qui a fait tous les changements corporels qu'elle souhaite n'a pas une anatomie d'homme. Une femme trans n'est pas une femme à l'intérieur qui est mâle anatomiquement, et un homme trans n'est pas un homme à l'intérieur qui serait une femelle anatomiquement. Ça, c'est une représentation extrêmement transphobe de la chose. Il me semble qu'on n'a pas besoin d'avoir recours au sentiment de soi, à la psychologie, à l'intériorité, à l'identité en général, pour théoriser la transitude, et que non seulement on n'en a pas besoin, comme on n'a pas besoin en général, souvent dans beaucoup d'approches sociologiques, hein, de recours à l'intériorité des agents pour expliquer des phénomènes sociaux, pour penser des phénomènes sociaux. Non seulement on n'en a pas besoin, mais ça peut être fragilisant. Justement parce que si on restreint la transitude d'un individu à sa simple intériorité, on peut toujours lui opposer que oui, mais ça n'est qu'intérieur, et que en réalité, soit socialement, soit corporellement, cette personne serait de son sexe assigné à la naissance. C'est aussi pour ça que nous avons choisi de nous y opposer. Alors, quelle définition positive maintenant? Ce serait simplement d'indiquer que la transitude, c'est la condition des individus dont le sexe légalement assigné à la naissance diffère du sexe vécu. Mais vécu, ça veut plus dire quelque chose de plus qu'éprouvé. Ça veut dire réalisé dans la vie, ça veut dire concrètement vécu dans le parcours de vie d'une personne. Et ça passe par quelque chose dont tu parlais tout à l'heure, qui est la transition. Une personne trans, c'est une personne qui souhaite transitionner, qui va transitionner, qui transitionne ou qui a transitionné. Qu'est-ce que c'est la transition? Ce qu'on appelle le changement de sexe, c'est simplement passer d'une catégorie d'un groupe social de sexe à un autre, ou encore une fois en essayant de s'arrêter à mi-chemin, par des moyens qui peuvent être corporels, ce qu'on appelle la transition physique ou médicale, hormonochirurgicaux essentiellement, des moyens qui sont sociaux, changement de prénom employé, changement de genre grammatical employé pour se désigner et pour être appelé, changement de vêtements, changement de code gestuel, de voix, même si l'aspect de la voix peut être aussi un aspect corporel, plutôt chez les hommes trans. Et enfin, un changement juridique avec le changement officiel du prénom et de la mention du sexe à l'état civil. Toutes ces dimensions, ces trois aspects de la transition ne sont pas présents dans toute transition, ne sont pas présents forcément de la même manière, au même moment, avec les mêmes contenus pour tout le monde, mais ce sont les trois aspects qui reviennent dans beaucoup de transitions chez une bonne partie de la population trans. Donc il nous a semblé que si on définissait ainsi la transition à partir d'un décalage, non pas entre une intériorité et une extériorité socio-corporelle, mais entre une assignation à la naissance et un parcours de vie défini par la transition, qu'elle soit devant soi, qu'elle soit contemporaine ou qu'elle soit derrière soi, ça permettait d'éviter ces formes de minorisation du sexe revendiqué comme n'étant qu'un état psychique et intérieur. Ça, c'est pour la partie, je dirais, la plus générale de nos thèses, qui sont globalement partagées par les autrices et les auteurs de cet ouvrage « Matérialisme trans ». Si je dois maintenant plus m'avancer sur la nature de la transitude, j'ai tendance à penser que si on définit la transitude à partir de la transition, ça a pour effet que la transitude n'est pas une condition
permanente, une forme d'état, soit joyeusement monstrueux, soit horriblement pathologique, qui définirait définitivement et intrinsèquement un ou une individu. La transitude, ça désigne un processus temporaire de passage d'un groupe à l'autre, et les procédés, les techniques qui sont employées pour réaliser ce processus, que ces procédés, ces techniques soient sociales, juridiques ou médicales. Par conséquent, dire qu'un individu est trans, ça ne veut pas dire que c'est sa nature profonde et permanente, ça signifie qu'il est passé d'un groupe à un autre par ces techniques, et on parle donc par là de quelque chose qui est temporaire, de quelque chose qui, en un sens, s'arrête ou du moins peut s'arrêter quand la transition de l'individu est terminée ou que cet individu estime qu'elle est terminée, si du moins, mais c'est souvent le cas, si du moins la société ne cherche pas à le rappeler de manière transphobe à son assignation antérieure.
Et je pourrais rajouter, parce qu'à un moment vous en parlez dans le bouquin aussi, c'est l'empêchement de transitionner, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, juste n'y arrivent pas pour tout un tas de raisons qui sont généralement corrélées à la classe, la race, le statut de papier, etc., etc. Rainbow like this shit with designer. Yeah. Fuck 'em on a leather recliner. Smudging on my lipstick and my MAC makeup liner. Yeah. Yeah. Eating good at the diner. Boss so fucking nice, so you might as well sign her. I ain't got time for no whiners. He was fucking weak, so I had to decline him. Yeah. I don't play with these silly niggas. I don't play with these stupid bitches. All I'm worried about is how to make money fast, get to the riches. I'm the best at what I do. Y'all bitches watching, y'all copy who? Quay dash that BX shit. Black broad with an attitude. I don't fuck with none of y'all. Smoke drink with none of y'all. All I do is count money. Cancun with a honey. Coke nose stay runny. Good top call a gummy. Ass top like a bunny. Y'all niggas ain't funny. I'm the best, fuck you talking about. Y'all punk niggas need to walk it out. Hardest dude up in your crew, talk shit, you get slutted out. That's word to my 30 y'all. Pull up in the 730 y'all. Hit y'all niggas with the semi, please forgive me if I fucking never heard of y'all. Hut one, hut two, I don't care what y'all sluts do. Got niggas on the plus two and they all take it in the butt too. Bad bitch in the snake skin, know you hating, you a fake friend. Got me rolling with my seat spin, niggas trash and they waist spin. These niggas is pussy, they so flat vagina. Rockin' rainbow like that shit was designer. Yeah. Fuck 'em on a leather recliner. Smudging on my lipstick and my MAC makeup liner. Yeah. Yeah. Eating good at the diner. Boss so fucking nice, so you might as well sign her. I ain't got time for no whiners. He was fucking weak, so I had to decline him. Yeah. I'm punching bitches in they mouth, watching hoes bleed. You know these hating niggas nosy like a nosebleed. Keep it real, keep it trill, sippin' OE. Wildin' at the club, dressed and I blow weed. Got this nigga gassed up with a hard dick, but he ain't really into me being a hard chick. But when you fuckin' with the boys, face the hard shits. On my pink Friday in the star shits. Call me China Doll, feelin' like I'm Fox Brown. Had the beat, taught me how to keep my Glocks down. So I pull up with the stick, blow your block down. All my pieces hittin', so who the op now? Click clack on that ass, pull the trigger back. Aim at your fucking brain in the Philly cat. Each of me I'll mix, bitch, you got the kitty cat. Fuck up out my face with your little kitty cat. T'as utilisé deux termes, cissexisme et transphobe, mais à mon avis, dans le même sens. Mais du coup, je t'avais entendu une fois critiquer le terme de transphobie. Tu vas nous dire pourquoi. Mais moi, ce qui m'intéresse plus dans ta réponse, du coup, c'est pourquoi en fait t'insistes sur le terme, enfin vous insistez pardon sur le terme de cissexisme, et en quoi, ça paraît important en fait d'avoir ça en tête encore une fois pour des personnes cis qui majoritairement écoutent l'émission.
Tu fais référence à une conférence que j'avais donnée en 2018 du cissexisme comme système, qui est depuis publiée sur le site de Karine Espinera et Modius Thomas, hein, l'Observatoire des transidentités, et où j'avais professé une position sur la relation des concepts de transphobie et de cissexisme, qui n'est plus la mienne aujourd'hui, mais que je vais rappeler. qui était la position que transphobie, c'est un terme beaucoup trop psychologisant, avec cette, cette idée de phobie qui serait une crainte intérieure aux individus, et que le terme de cissexisme, parce qu'il n'a pas cette teneur psychologique, serait plus adéquate à décrire un système social. Je ne suis plus sur cette position aujourd'hui parce qu'il me semble plus pertinent d'utiliser le terme de cissexisme pour parler de la considération globale de ce que le sexe réel d'un individu et son sexe assigné à la naissance et des pratiques de discrimination, de domination, d'oppression envers les personnes trans qui s'en suivent, mais en tant qu'elles sont globales, qu'elles sont irréfléchies, que la plupart des gens sont cissexistes, la plupart des cis en tout cas sont cissexistes, mais même sans y penser, même avec beaucoup de bienveillance vis-à-vis des trans, de la même façon pour la plupart des institutions. Et par opposition, je réserve désormais plutôt le terme de transphobie aux formes de cissexisme qui sont réfléchies et qui sont actives, c'est-à-dire les formes institutionnelles, les formes pratiques, les formes de militantisme qui visent volontairement à l'oppression ou à l'éradication de la population trans. C'est plutôt ma position aujourd'hui. Mais il faut néanmoins rappeler que toutes les formes de transphobie, de militantisme anti-trans actif et conscient, se développent sur un fond socio-culturel qui est le cissexisme. C'est-à-dire que comme tous les blancs et les blanches sont racistes, toutes les personnes cis sont cissexistes, spontanément, parce que elles et ils partent de formes de pensée majoritaires, hégémoniques, qui sont hostiles à l'existence de la transitude. Par conséquent, il y a un fond cissexiste, culturel, social, institutionnel, dans nos sociétés, qui fait que certaines personnes vont élaborer ce fond cissexiste pour devenir des militantes ou des militants anti-trans. Donc je pense qu'il faut garder les deux termes, cissexisme et transphobie, mais ne pas forcément leur accorder exactement la même définition.
Et est-ce que du coup, tu pourrais expliquer avec des mots simples, entre guillemets, le cissexisme, en gros, qu'est-ce que c'est ?
En termes de conception, ou plutôt d'opinion pré-réfléchie sur le monde, de ces idées qu'on a toutes et tous sans y avoir réfléchi parce qu'on a grandi dedans, bien, le cissexisme, c'est l'idée que le sexe d'un individu, est-ce que vous êtes une femme ou un homme ? Puisque le cissexisme pense les sexes de manière différentielle et opposée, il y a juste deux sexes qui seraient opposés et complémentaires, hommes et femmes. Ce sexe d'un individu, il est fixé à la naissance de manière intangible. C'est-à-dire qu'on peut changer certaines choses, éventuellement, par des hormones de la chirurgie, mais tout ça c'est de l'apparence, c'est de l'illusion à la rigueur. Et le vrai sexe reste ce qui aura été diagnostiqué à la naissance ou lors de l'échographie des fœtus. Mais ça, c'est juste une opinion. Cette opinion, elle n'a de validité et elle n'est répandue que parce qu'elle est une opinion traduite culturellement, une société organisée par la division et la hiérarchisation entre deux groupes sexués, les femmes et les hommes, où l'un des deux groupes est en bas dans cette hiérarchie et, de préférence, doit plutôt rester en bas. Donc quand on a une hiérarchie qui est censée être fixe, la conséquence, c'est que il vaut mieux éviter qu'il y ait des transferts entre les deux, parce que l'existence de transfert remet en cause la naturalité de cette fixité, la justification comme naturelle de cette opposition fixe et hiérarchique de deux groupes ou classes sexuées que sont, pour citer Christine Delphi, les hommes sociaux et les femmes sociales. Donc le cissexisme, c'est quelque chose qui dérive du sexisme structurel de nos sociétés, hein, c'est-à-dire du patriarcat et de l'hétérosexualité, et qui en est l'une des conséquences pratiques concernant une partie de la population, à savoir les populations trans. Donc ce n'est pas avant tout une opinion, c'est une opinion qui découle d'une certaine organisation sociale, patriarcale et hétérosexuelle.
Ok, merci, ça c'est très clair. On va avancer un peu dans ce que peut, ce qu'il peut y avoir de différent et ce que peut contenir le bouquin. Il y a un article de Noémie Grunenwald, du coup, qui aborde l'expérience des femmes trans via l'autodéfense féministe, et il y a quelque chose dedans qui m'a paru hyper important, c'était cette notion d'inclusivité dont elle parle, et notamment en reprenant Bell Hooks, etc. Donc tu me le montres, c'est...
Dans ces passages-là.
Voilà, et est-ce que tu veux en parler ou...
Noémie Grunenwald, dans son article, critique les approches féministes en termes d'inclusion en se fondant sur la position de la féministe noire américaine Bell Hooks, qu'elle a traduit, elle a traduit de La marge au centre en français aux éditions Cambourakis, parce que Bell Hooks, dans Ne suis-je pas une femme notamment, et de La marge au centre aussi, critique les politiques prétendument inclusives des féministes blanches à l'égard des féministes racisées, notamment des femmes noires américaines. Elle les critique parce qu'elle dit « mais en fait, cette position, ça consiste juste à penser le féminisme comme ayant un sujet ancien, de plein droit légitime, qui serait les femmes blanches, et d'ailleurs plutôt les femmes blanches de classe moyenne, qui ensuite, avec générosité, auraient ouvert les portes à d'autres catégories de femmes, et notamment les femmes noires. Donc il s'agit, pour un sujet assez majoritaire, assez relativement avantageux socialement, en tout cas par rapport aux femmes noires, hein, pas par rapport aux hommes blancs, mais par rapport aux femmes noires, les femmes blanches, de se poser comme tout à fait charitable, finalement, et ouvrant les portes de leur mouvement avec générosité à d'autres sujets auxquels elle laisse une petite place, mais une place qui est généralement assez minorée. Bell Hooks rappelle dans son ouvrage que une forme de division du travail qui s'est mise en place dans les milieux féministes américains dans les années 60-70, où les femmes noires étaient juste là pour apporter des témoignages, tandis que les femmes blanches étaient celles qui théorisaient toutes ces expériences, tous ces témoignages. Eh bien, Noémie Cronenwald s'est appuyée sur cette critique de l'inclusivité par Bell Hooks, dans De la marge au centre notamment, pour critiquer les prétentions à l'inclusivité du féminisme envers les femmes trans. En soulignant que là aussi, il y a cette idée que les sujets légitimes, et j'ajouterais natifs et naturels, du féminisme, des mouvements féministes, sont les femmes cis, et qu'éventuellement, elles ont la grandeur d'âme d'accueillir leurs sœurs trans, hein, on parle beaucoup de sororité dans ces cas-là, d'accueillir leurs sœurs trans en leur sein, en leur laissant généralement une place tout à fait minorée, qui consiste grosso modo à être l'épreuve que le genre peut être déconstruit, formidable. Et grosso modo un rôle de femme trans de service. Noémie Cronenwald souligne aussi que, en se donnant le beau rôle d'inclure les femmes trans, cette politique d'inclusivité ne réfléchit pas sur les pouvoirs, les positions de domination exercées par les féministes majoritaires, ici en l'occurrence les féministes cis, sur les groupes exclus. On se focalise sur les femmes trans comme ayant été de pauvres exclus qui maintenant sont inclus parce que, en vrai, elles aussi, elles ont droit à une petite part du gâteau parce qu'elles sont gentilles de déconstruire le genre. Même si elles ne le déconstruisent souvent pas assez, on les suspecte, hein, généralement, elles sont, c'est la conséquence, elles sont incluses sous la forme de suspectes, soit parce qu'elles seraient encore trop des hommes, soit parce qu'elles ne déconstruiraient pas assez le genre, et du coup, elles seraient des femmes trop stéréotypées, ou alors elles le déconstruisent trop, et elles ne sont pas assez des femmes. Donc tout ça, c'est ce qui fait que Noémie Cronenwald peut écrire, et je la cite parce que j'aime beaucoup cette formule, « Finalement, l'inclusion n'est rien d'autre qu'un aménagement autorisé par l'hégémonie. De plus, la rhétorique de l'inclusion se concentre sur les catégories à inclure plutôt que sur les catégories qui excluent, c'est-à-dire sur les femmes trans plutôt que sur les femmes cis. » Je pense que c'est vraiment cet aspect-là qu'elle a critiqué à juste titre, auquel on doit simplement opposer que les femmes trans, comme les femmes minoritaires, ou minorisées plus exactement en général, sont des sujets de plein droit du mouvement féministe qui n'ont pas à être inclus après coup dans des mouvements qui restent structurellement cis-centrés, car dominés par des femmes cis.
Et t'en as un peu parlé de la présence des femmes trans dans le milieu féministe. La pensée féministe queer, marque en fait beaucoup la pensée trans, en tout cas en France. Peut-être discuter de comment le féministe queer voit les trans, et comment vous citez à un moment, vous montrez quel problème ça peut engendrer dans les vécus concrets, matériels, trans, justement.
Ce dont tu parles est l'objet de l'article de Constance Lefebvre dans cet ouvrage, article qui s'appelle « Femmes trans et féminisme », tout simplement, où elle traite des différentes modalités de présence des femmes trans, en tout cas des femmes trans connues en tant que trans, dans les mouvements féministes. Parce qu'on entend parfois certaines féministes qui disent « Oh là là, mais... moi, de toute façon, des trans, je n'en vois pas dans mes associations, dans mes collectifs. Bon, bah, peut-être que si, mais tu ne le sais pas. » Dans cet article, Constance traite notamment, hein, c'est l'objet de sa deuxième partie, des féminismes queer, où ce qu'elle montre, c'est que dans les milieux queer, que ce soit des milieux de vie, de fête, de sociabilité, ou des milieux plus ou moins militants, les femmes trans sont généralement intégrées à une place assez subordonnée, qui est la place de token, d'alibi, de caution, de elles déconstruisent le genre, donc c'est très bien. Mais du coup, bah, ça implique de le déconstruire, ce qui n'est pas forcément la volonté ou ce qui n'est pas forcément possible pour les femmes trans. En début de transition, il faut déjà passer pour pas trop se faire agresser, pas trop être exclu socialement, pour avoir des jobs. Ça implique pas forcément de commencer par essayer de faire ce que les queers appellent déconstruire le genre. En fait, ils veulent dire ils veulent dire faire varier les apparences sexuées. Hein. C'est tout simplement ça, faire varier les codes genrés. Donc ça fait que les femmes trans, si elles sont présentes dans ces milieux militants et sociaux, c'est vraiment en tant que, encore une fois, que caution, et non pas en tant que femmes de plein droit. Et d'ailleurs, c'est moins en tant que femmes qu'en tant que trans qu'elles y sont incluses. Ce qui va d'ailleurs généralement de pair avec une très forte fétichisation sexuelle. Le fait que les femmes trans dans ces milieux, comme souvent les femmes minoritaires dans les milieux sociaux et militants féministes, subissent une forte injonction à la sexualité et que leur acceptation dans ce milieu est conditionnée par leur disponibilité sexuelle. C'est ça qu'a pointé Constance Lefebvre dans son article, cet aspect de fétichisation à la fois symbolique et sexuelle des femmes trans dans les milieux queer, qui font que ces milieux ne sont pas forcément très accueillants envers les femmes trans, ou ont l'air accueillants, mais sont accueillants à certaines conditions.
Je ne sais pas si ça a à voir, mais moi ça m'a fait penser à ça, c'est plus dans les milieux lesbiennes, où là quand tu disais les femmes trans sont fortement... reçoivent une injonction à accepter la sexualité, je sais pas comment t'as dit ça. Dans les milieux lesbiennes, moi j'ai plutôt l'impression que les femmes trans, on s'en méfie toujours, un peu, si ce n'est ouvertement. En tout cas, elles sont plutôt, je trouve, mises à la marge des réseaux de sexualité et de séduction, etc. Mais peut-être que c'est juste ma constatation et qu'elle est pas... qu'elle devrait être un peu élargie avec d'autres ou vérifiée. T'en penses quelque chose, toi, de ça, ou pas? C'est le moment où je critique un peu les lesbiennes, donc est-ce que ça va te déranger?
Je saurais pas te donner une réponse unitaire, notamment parce que les milieux lesbiens sont très divers en France, pour rester sur le cas français, et qu'une bonne partie de ces milieux lesbiens, notamment dans les grandes villes, et surtout en région parisienne, sont en grande partie, pas totalement, mais en grande partie, chevauchés avec les milieux queer. Moi, ce que j'ai pu constater de mes expériences, c'est que c'était très différent selon les milieux lesbiens, hein, parce que j'ai connu les milieux lesbiens parisiens, effectivement, très proches des milieux queer, où il y a effectivement cette forme de méfiance, mais qui recoupe la méfiance queer, et qui est une méfiance très sexiste, qui se dit très trans-inclusive, très déconstruite, mais où finalement, on comprend très vite que les véritables femmes pour ces personnes, ce sont les hommes trans et pas les femmes trans, ce qui est extrêmement cissexiste. Mais par ailleurs, moi j'ai fait ma sociabilisation lesbienne dans un milieu lesbien de petites villes de province et d'espaces ruraux et périurbains pendant des années où je travaillais en Bourgogne. Et c'était pas du tout les mêmes logiques, et question des lectures queer sur les femmes trans ne se posait pas tellement. Il n'y avait pas spécialement d'opposition, de principe, aux présences de femmes trans dans les milieux lesbiens. C'était des milieux aussi qui étaient peut-être moins politisés que j'ai pu après voir dans des grandes villes comme Lyon ou comme Paris. Mais il m'a semblé que dans ce type de milieu-là, plus rural, périurbain et de petites villes, il n'y avait pas vraiment d'exclusion de principe, ni même de méfiance de principe envers les femmes trans. Il pouvait y avoir des formes de méfiance envers les personnes queer, parce que ça commençait déjà aussi à arriver dans ces espaces-là, hein, notamment dans l'espace des petites villes, quand il y avait une fac dans ces petites villes, mais pas spécifiquement envers les femmes trans, en tout cas. Donc je crois que les milieux lesbiens sont trop divers pour des raisons sociales et géographiques pour que je puisse te donner une réponse unifiée.
Mais j'en cherche pas, hein, réponse unifiée. Je trouve ça très bien ce que tu me dis, de complexifier un peu cette espèce d'impression que j'ai qui n'amenait pas à une généralisation partout, tout le temps. D'accord. Donc c'est super. Est-ce que du coup, je t'ai coupé un peu dans ta réponse sur les féministes queer, est-ce que t'avais des choses à ajouter ou tu penses que t'as dit l'essentiel, hein?
Voilà, j'ai fait un petit résumé, mais j'invite vraiment les lectrices et les lecteurs à aller lire cet article de Constance Lefebvre qui est très clair, très remarquable et à mon sens très synthétique sur ce sujet des obstacles qui sont mis par les cis, hein, en réalité, et par le cissexisme, au militantisme et à la présence des femmes trans, en tout cas des femmes trans connues comme trans, dans les milieux militants féministes.
Ça roule.
C'est le when you're standing in the presence of a legend.
Stand up
when you're standing in the presence of a legend.
I had to fight alone this journey. I used to think bridges were only meant for burning. Learn hella shit, but I'm still learning. A to Z, 1, 2, 3, the world ain't the same for me. I sing this song for those before me. Of a legend.
Stand up
when you're standing in the presence of a legend.
Stand up
when you're standing in the presence of a woman that's done it way before your legs were walking. Let your action do the talking.
You better stand, 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 stand,
stand up. Most girls like me don't live past 30. Devil well into your 70s. I clap my hands, raise the dead so they can hear me. A to Z, without your G, the world wouldn't know about me.
Stand up
when you're standing in the presence of a legend.
Stand up
when you're standing in the presence of a legend. When you're standing in the presence of a woman that's undone it way before your lips were walking. Let your action do the talking. Presence of a legend.
Stand up
when you're standing in the presence of a legend.
Stand up
when you're standing in the presence of a legend.
You better stand, better stand, better stand, better stand, better stand.
Et là, avant de commencer l'interview, on discutait sur discuter ou pas des féministes anti-trans. Et tu me disais que toi, ça te posait question de systématiquement rappeler leurs arguments parce que ça leur donnait finalement un écho qu'elles avaient suffisamment par ailleurs. Est-ce que on pourrait prendre du coup les choses différemment en montrant leur lien en fait avec l'extrême droite, avec les pensées conservatrices, réactionnaires, etc. Est-ce que ça t'irait de plus prendre cet angle-là sur ce courant féministe dit anti-trans dont parle aussi Constance Lefebvre dans son article?
Effectivement, ce que permet ta question, c'est de montrer que les féministes anti-trans, ou les gens qui se disent féministes, ont des formes d'activisme souvent essentiellement dirigées contre les trans, hein, parce que il s'agit en grande partie de gens qui ne militent pas dans des réseaux féministes, mais sont surtout très 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 actives contre les trans. On les comprend mal quand on en reste à l'acronyme TERF, pour Trans Exclusionary Radical Feminist, féministe radicale excluant les trans. Parce que ça donne l'impression que ce serait une part des féministes radicales, d'extrême gauche, prônant l'abolition du genre, souvent lesbiennes radicales, qui serait le fer de lance de la transphobie dans le féminisme, dans les mouvements féministes. Ça a pu être le cas à une certaine époque aux États-Unis, en partie, hein, dans les années 70. Ce n'est clairement plus le cas aujourd'hui. Que ce soit en France ou ailleurs, notamment en Angleterre, au Canada, en Australie, aux États-Unis, pour prendre les pays où les mouvements féministes anti-trans sont les plus développés. En réalité, le gros des forces des féministes anti-trans, ce sont soit des féministes libérales, qui ne sont pas pour l'abolition des rapports sociaux de sexe, qui ne sont pas pour l'abolition du patriarcat et de l'hétérosexualité, souvent politiquement social-démocrates, soit des féministes d'extrême droite, ou des féministes fascistes, hein, comme l'association Némésis, comme une polémiste française dont le nom m'échappe à l'instant, qui est une ancienne journaliste de ce journal d'extrême droite qui est devenu Charlie Hebdo, qui écrivait ou qui écrit aux éditions Ring, hein, qui est l'un des éditeurs d'extrême droite, qui éditait Marceau, Papacito, Laurent Berton, etc. C'est aussi Eugénie Bastier de la revue Limite, Marianne Durano. Les forces anti-trans féministes ou se disant féministes sont soit social-démocrates, soit fascistes, et souvent s'allient entre elles. Pour ce qui est de la lutte contre leur ennemi commun, qui sont pas que les trans, hein, qui sont essentiellement les trans, les musulmanes et musulmans et les travailleuses du sexe. Hein, j'ai une espèce de sainte trinité des ennemis de ces pseudo-féministes qui sont les putes, les femmes voilées et les femmes trans essentiellement. Bah, quand il s'agit de manifester contre elles et eux, quand il s'agit de signer des pétitions, ces gens-là, que ça soit des social-démocrates ou des fascistes, elles n'ont, ou ils n'ont, parce que ce sont des milieux très hétérosexuels et très bourrés d'hommes, ils et elles n'ont aucun problème à marcher main dans la main et à collaborer, hein, je passe mes mots. Donc c'est vrai qu'en réalité, ce qu'on appelle TERF, c'est une toute petite partie, pas très émergée d'ailleurs, de l'iceberg des féministes anti-trans. Ce sont des gens qui ont des logiques complotistes, souvent qui vont dire que l'existence de la transitude est un complot financé par Big Pharma, avec derrière le milliardaire juif Soros, parce qu'il y a beaucoup d'éléments antisémites, hein, dans leur complotisme, pour affaiblir l'Occident. Et ce sont des gens qui, aux États-Unis, aussi en Angleterre, voire parfois en France, n'ont pas de souci à marcher main dans la main et à se faire financer par les églises catholiques et protestantes évangéliques pour mener campagne contre l'existence même des personnes trans, puisque leur but n'est rien de moins que d'empêcher l'existence des personnes trans en rendant impossible les transitions.
Ok, merci, c'était très clair. J'avais une autre question. Toi, tu as écrit deux textes dans le livre. Un sur la notion du corps, faudrait que je voie le titre de l'article, je suis désolé, je ne l'ai pas révisé avant.
L'accès au corps.
Voilà. Bon, bref, je pense que tu sais de quoi ça parle. Et du coup, est-ce que tu veux bien nous faire une présentation de ton article, parce que je l'ai trouvé assez chouette. Et voilà, j'aurais bien aimé qu'on en parle.
Il s'appelle donc « Les conditions sociales de l'accès au corps pour une théorie matérialiste des corps à partir de la transsexuation ». Alors ce que j'ai voulu montrer dans cet article, qui est un mélange d'approches philosophiques et sociologiques, c'est que avoir un corps et se rapporter à son propre corps, ça n'est pas quelque chose qui serait donné de manière spontanée. Il y a des médiations, des structurations sociales entre mon corps et moi. C'est-à-dire que pour me rapporter à mon corps, l'investir comme je l'entends, comme cela me convient, il y a des institutions, des pratiques sociales qui se mettent entre mon corps et moi et qui peuvent m'en empêcher. C'est le cas, par exemple, si je veux avorter après le quatrième mois de grossesse et je vais rencontrer des obstacles, je devrais le faire à l'étranger, etc. Bon, ce type de réalité-là. Donc, c'est-à-dire que l'autonomie corporelle, la capacité à disposer librement de son corps, n'est pas une donnée première, une donnée naturelle. C'est quelque chose qui dépend de tout un contexte social qui peut être plus ou moins répressif, et qu'il est spécifiquement répressif envers les femmes, et qu'il est d'autant plus que ces femmes sont minorisées, ici le cas que je traite étant le cas des femmes minorisées en tant que femmes trans. C'est ça qui m'a fait construire ce concept d'accès au corps, l'idée que accéder à son propre corps, pouvoir en disposer, l'habiter d'une manière autonome, ça n'est pas évident, ça peut faire face à des obstacles sociaux, à des structures sociales, à des dominations. Dans le cas des personnes trans en général, et des femmes trans en particulier, cette question d'accès au corps et la restriction patriarcale et hétérosexuelle de cet accès au corps est particulièrement évidente, dans la mesure où vivre dans le corps, ou plutôt vivre en tant que corps revendiqué, désiré, souhaité, c'est-à-dire le corps ayant vécu une transition physique, une transition médicale, en tout cas pour les personnes trans qui en font une, ça n'est pas quelque chose qui est laissé de manière totalement libre à la discrétion des individus trans. Il y a tout un tas de limites médicales, juridiques, sociales, culturelles aussi, médiatiques, qui sont mises à cette capacité des individus trans à vivre pleinement dans leur corps, à avoir accès, un accès autonome, autodéterminé à leur propre corps. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est que cet accès problématique, cet accès limité, cet accès hétéronome, aliéné à notre propre corps, en tant que femme trans, il dépend d'une structure sociale patriarcale hétérosexuelle plus générale, qui est l'appropriation des corps des femmes par la classe des hommes. C'est un concept que je reprends à la féministe matérialiste Colette Guillaumin, qu'elle avait développé dans les années 70. Et pour moi, c'est cette structure sociale d'appropriation des corps des femmes par les hommes qui limite l'autonomie corporelle des femmes, qui peut nous permettre d'expliquer des phénomènes comme la contrainte à l'hétérosexualité, comme la limite mise à l'avortement ou au néonaticide, comme la limite mise au lesbianisme, etc. Mais qui peut aussi nous permettre d'expliquer les limites mises aux transitions des personnes trans, et tout notamment des femmes trans. Donc il s'agissait, par ce concept d'accès au corps, pas seulement de penser la condition spécifique des femmes trans, mais de montrer comment elle prend place, comment elle s'explique par la condition plus générale des femmes dans les sociétés patriarcales et hétérosexuelles qui sont les nôtres.
Ok, merci beaucoup. Et je crois qu'enfin, mais pareil, je t'ai pas prévenu là-dessus, je trouvais que l'article de Joao Gabriel était sacrément intéressant, et je trouvais ça super intéressant, sa critique, mais positive en fait, de la thèse de Bobassi, du transfuge de sexe, dans le cas des hommes noirs, du fait que quand une personne noire transitionne, c'est la race qui marque différemment, souvent plus durement, la vie des personnes noires qui transitionnent.
Alors tout à fait, on a beaucoup de bons retours sur cet article de Joao Gabriel qui s'appelle « Devenir l'homme noir, repenser les expériences transmasculines au prisme de la question raciale ». Alors sa position par rapport à la thèse d'Emmanuel Bobatti selon laquelle la transition peut être apparentée à un transfuge de sexe, déclassement dans le sens MTF et promotion sociale dans la classe FTM, ça ne consiste pas à la nier, simplement à la nuancer. En montrant que dans le cas des personnes trans qui deviennent des hommes noirs, les FTM noirs, leur changement de sexe n'est pas simplement une promotion sociale, parce que ils font face à tout un tas de nouvelles violences, de nouvelles dominations auxquelles ils et elles ne faisaient pas forcément face en tant que femmes, ils faisaient face à d'autres oppressions quand ils étaient assignés femmes, mais il s'agit maintenant d'autres oppressions. Alors il parle notamment de la multiplication des contrôles policiers, le fait d'être marginalisé dans certains secteurs très spécifiques, de la division sociale du travail. Mais il ajoute que voilà, ça ne veut pas dire que la transition FTM qui fait devenir un homme noir serait nécessairement un déclassement, il indique que c'est simplement une recomposition des dominations vécues. Que des dominations vécues en tant que femme noire ou que garçon manqué noir vont se transformer et désormais être d'autres types de dominations, d'autres types de violences sociales qui vont être reçues. C'est vraiment cette idée de recomposition qu'il insiste dans son article, et que effectivement les hommes noirs trans échappent par leur transition aux misogynes noires, mais en revanche, ils n'échappent pas au racisme et à la manière dont la masculinité noire est toujours suspectée par les blanches et les blancs dans les états policiers racistes qui sont les nôtres.
Merci beaucoup. Et si t'as rien à rajouter, moi je m'arrêterai là. C'est bon pour toi ?
C'est bon pour moi, je te remercie.
Merci beaucoup, Pauline. Quelques passages du texte de Joao Gabriel parce qu'on a été deux personnes blanches à en parler et qu'il me semblait important de citer directement dans le texte sa réflexion et aussi pour vous donner aussi envie de le lire puisqu'il est vraiment très très intéressant et déploie beaucoup de choses. Je commence. Pour ce qui est des personnes noires donc, vis-à-vis des institutions et du marché du travail dans les sociétés occidentales, il ne s'agit pas d'une situation de transfuge, au sens d'une ascension sociale relative quand on transitionne vers le masculin, et d'un déclassement quand on transitionne vers le féminin. Mon hypothèse est que les hommes trans noirs deviennent des hommes noirs, presque, comme les autres, c'est-à-dire qu'ils sont exposés aux oppressions étatiques et économiques visant les hommes noirs, indépendamment du fait qu'ils sont trans. Cette dimension n'intervient que comme facteur aggravant dans les contextes où elle sera révélée ou découverte. Alors que pour les femmes trans noires, il s'agirait selon moi de devenir une catégorie sociale exposée à encore plus de vulnérabilité, de violence et de précarité, qui n'est semblable ni à celle des femmes et hommes noirs cisgenres, ni à celle des hommes trans noirs. Les femmes trans noires et non blanches sont d'ailleurs le segment de la population trans le plus exposé aux crimes transphobes. Et ces crimes sont le bout d'une chaîne qui commence par des processus d'exclusion spécifiques aux femmes trans, en particulier non blanches, qui ont cours aussi dans les milieux militants. Par conséquent, selon l'hypothèse que j'espère éprouver dans les mois et années qui suivent, il n'y a pas d'ascension pour les hommes trans noirs parce que, désormais hommes, et ce qui peut être appelé déclassement dans le cas des femmes trans noires ne peut être compris de la même façon que pour les femmes trans blanches. Là où la perspective d'un déclassement pour les femmes trans blanches peut être pertinente, pour les femmes trans noires, c'est moins un déclassement qu'un enfoncement, une aggravation de la condition noire. On pourrait même rétorquer qu'il s'agit bien là de la même chose, mais je tiens à cette nuance, pour rappeler que transitionner en quittant la position d'être assigné homme blanc ou d'être assigné homme noir n'est pas du tout partir du même point. Je passe un peu à quelques parties du texte. Je reprends. Je crois donc qu'en tant que noir, transitionner est à tous les coups une aggravation de la condition noire, déjà marquée par une marginalisation économique et symbolique. Dans les deux cas, la condition noire est l'élément déterminant. C'est elle qui fixe, avant la transition, l'exclusion de l'emploi, la relégation dans les quartiers populaires, l'exclusion symbolique de la nation, le contrôle et la stigmatisation des corps, etc. Les populations noires n'ont pas non plus besoin d'être trans pour être considérées comme déviantes en termes de genre et de sexualité. Elles n'ont pas non plus besoin de la transphobie pour être plus exposées et vulnérables au VIH et aux IST. Alors même que leur accès à la prévention et aux soins est entravé par le racisme. Contrairement aux trans blancs, les trans noirs ne découvrent pas toutes ces marginalisations et exclusions en transitionnant. Tout cela, ils et elles l'ont déjà en partage avec les noirs de façon générale. Nulle volonté de ma part de nier la transphobie vécue par les trans blancs, mais simplement celle d'affirmer que ce que la transphobie fait subir aux blancs, les noirs le subissent à cause du racisme, sans avoir besoin d'être trans. En quelque sorte, le cœur de la présente réflexion est d'affirmer que les hommes trans noirs sont surtout noirs, que leur parcours de transition éclaire peut-être plus sur la condition noire et les dynamiques raciales du capitalisme qu'il n'éclaire sur les questions trans. Je passe encore, pour un dernier passage, je reprends. Au-delà des groupes sociaux noirs, il est donc possible, à partir de la condition des hommes trans noirs, de repenser plus généralement ce qu'on entend par la catégorie sociale « homme », dans un ouvrage qui assume une posture matérialiste. Il me semble que l'un des défis politiques des temps à venir est de bâtir des politiques de coalition, au-delà des questions trans. Or, en France, un ensemble d'acteurs, hommes et femmes politiques, militantes féministes et de gauche, journalistes, universitaires, ont rendu, chacun à leur façon, la question de l'émancipation des femmes indissociable du projet politique raciste et libéral. Il est alors urgent de défaire les liens entre les logiques sécuritaires et éminemment racistes qui se cachent derrière la cause des femmes et celle des homosexuels. Les questions trans, ne font pas encore l'objet d'un tel investissement, mais on peut craindre que ça devienne le cas dans le futur. Quoi qu'il en soit, ces logiques sécuritaires et racistes prennent pour cible principale la figure de l'homme non blanc, l'homme musulman, l'homme noir, l'homme de banlieue, l'homme migrant, ennemi intérieur par excellence.
With these silly thoughts, trying to fuck with queers, you dumb as fuck. fuck. Come and dance with the devil, bitch, try your luck. I'm nationwide and you local, ho. And I'm doing shows, that's how it's supposed to go. You can kiss the crown, bitch, get on your knees. I'm the queen, motherfucker, yo, shorty, please. You can breathe fast or you can breathe slow. You need cash, you need dough. Begging your niggas for a coin a dollar. When I see these birds, I ain't tryna holler. How the fuck you think you cute and shit? Riding around with no loot and shit. Baby, you supposed to be ruling shit. Square toe, leather boot and shit. How the fuck you think you cute and shit? Riding around with no loot and shit. Baby, you supposed to be ruling shit. Square toe, leather boot and shit. Bad bitches, I'm a fucking boss. And you see the outfit, fuck what it costs. I'm a hustler and I mix my bread. That shit is easy like butter spread. You can hate on me and suck hella dick. But I bet you lie like you sell a bit. Women lie, men lie. But I'm a real bitch till the day that I die. Niggas see me on the street hating on my fly. And now they getting horny when I'm feeling on my thigh. Chilling with my bitches and we know you really about it. You bury me that I doubt it. I'ma keep on shouting to the fucking hills and the mountains. Drink the pure waters from the fountains. Let my skin glist. Keep my nine tucked for the fit. I'm a cunt nigga, I'm the shit. How the fuck you think you cute and shit? Riding around with no loot and shit. Baby, you supposed to be ruling shit. Square toe, leather boot and shit. How the fuck you think you cute and shit? Riding around with no loot and shit. Baby, you supposed to be ruling shit. Square toe, leather boot and shit. This one's for my real bitches. All my real bitches. This is for my real bitches. All the real bitches. This is for my ghetto bitches. My fucking ghetto bitches. This is for my ghetto bitches. My fucking